Regard sur le Grand Victoria est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, seul organisme mandaté pour soutenir financièrement les radios communautaires et de campus du pays. Regard sur le Grand Victoria. Votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité municipale. À retrouver tous les mercredis à midi et en rediffusion le samedi à 10h sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM. Mais aussi en balado sur radiovictoria.ca. Bonjour à tous, c'est François Macon au micro de Regard sur le Grand Victoria. Merci d'être fidèle une nouvelle fois à votre rendez-vous hebdomadaire qui décrypte l'actualité municipale. Nous sommes ensemble pour une demi-heure, durant laquelle nous allons revenir sur ce qu'il s'est passé cette semaine dans vos gouvernements locaux respectifs, à Saanich et à Sydney cette semaine, puisque se sont tenus lundi les conseils municipaux de ces deux villes. Et puis, nous reviendrons également sur ce qu'il s'est passé la semaine dernière, jeudi dernier, à Victoria. Au cours de cette émission, je recevrai Karen Harper, qui est conseillère municipale à Saanich, avec qui nous reviendrons sur les principaux dossiers et rapports qui ont été étudiés cette semaine en conseil municipal. Je recevrai également Cliff McNeil-Smith, le maire de Sydney, qui a gentiment accepté notre invitation concernant un sujet cette semaine à Sydney, celui de réattribuer de l'espace public, des trottoirs et des places de stationnement, d'habitude réservées aux automobilistes, afin de faire plus de place dans le centre-ville de Sydney et notamment sur l'avenue Beacon. Et puis dans la deuxième partie de notre émission, je recevrai Judith Sayers, qui nous a fait l'amabilité de répondre à notre invitation, avec qui nous reviendrons sur l'émission de la semaine dernière, émission consacrée à la réouverture du couloir ferroviaire de l'île de Vancouver, une émission que je vous invite à réécouter sur notre site radiovictoria.ca, à la rubrique « Regards ». Judith Sayers a été membre du conseil d'administration de la Highland Corridor Foundation pendant près de 16 ans. Elle a également co-présidé durant de nombreuses années l'institution. Elle est membre de la Première Nation Upachazat. Et nous reviendrons avec elle sur le rôle crucial qu'ont joué les 14 Premières Nations dont le rail traverse les territoires et terres. Comment ces 14 Premières Nations travaillent ensemble depuis maintenant des décennies et est-ce qu'elles ont encore à ce jour une vision commune quant à la destinée du rail et à la réouverture du couloir ferroviaire? Une interview passionnante que je vous invite donc à retrouver en fin d'émission, en deuxième partie. Mais avant cela, on commence tout de suite avec votre revue d'actualité municipale locale pour le Grand Victoria.
We are tethering our bylaw staff. We are basically ordering the creation of a new tent camp in Beacon Hill Park with this motion. And I just think it's a deplorable direction for us to be going.
Okay, that's actually not at all what's happening. Ms. Perkins, do you interpret this motion to go set up a
tent? Doesn't matter how, we can't ask the staff to interpret a motion that we are in the course of passing. This motion is giving direction. We're not asking our staff how they interpret an order by us that abandoned
as,
belongings
sorry,
as one of the people who wrote the motion.
It doesn't matter what you say either, Councillor Loveday. It's not the mover of the motion's intent that matters. It's what the motion says.
Okay, hold on. If we could, I'm the chair. Councillor Young, you had ceded the floor and I had begun to spoke. You had interrupted me. That's fine. Let's call it a point of personal privilege. I now have the floor and then I'll go to Councillor Loveday as the mover. There are words here on the screen. We always ask our staff before we vote on something, how do you interpret this direction? So I'll just ask you instead of trying to put words in your mouth.
Et vous venez d'entendre à l'instant un extrait d'une captation audio du dernier conseil municipal de Victoria qui s'est tenu, je vous le disais, jeudi dernier, au cours duquel les élus et notamment les deux protagonistes que nous venons d'entendre, la maire qui répondait à Monsieur Geoff Young, le conseiller Geoff Young, les élus se sont écharpés durant près de 2 heures sur la question des Tent City. Le conseil municipal de Victoria avait débattu d'une motion visant à protéger les biens et les abris des personnes vivant dans les parcs de la ville, à l'exception de Topaz Park et de Pandora, contre le démantèlement. Le rapport co-signé par les conseillers Sarah Potts, Ben Isitt et Jeremy Loveday préconisait la modification des règlements administratifs concernant les parcs pendant la période d'urgence sanitaire du Covid-19, afin d'octroyer un délai de 72 heures avant que les agents de la ville ne retirent un abri jugé inoccupé et ou des objets personnels abandonnés dans les espaces verts municipaux. Le rapport recommandait par ailleurs que les objets ainsi saisis, au lieu d'être détruits, doivent être stockés pendant 30 jours afin de pouvoir être réclamés plus tard par leurs propriétaires. Après près de 2 heures de débat parfois houleux, comme vous venez de l'entendre, les élus ont donc décidé de réviser un règlement municipal qui stipule que les tentes et les biens ne peuvent pas être laissés dans les parcs publics ou les espaces verts après 7 heures du matin. Le conseiller Geoff Young, que nous venons d'entendre, unique représentant à rejeter la motion, a déclaré, je cite, « Nous sommes en train de lier les mains de notre personnel administratif. Nous ordonnons essentiellement la création d'un nouveau camp de tentes dans le parc Beacon Hill avec cette motion. » Et je pense simplement que c'est une direction déplorable que nous empruntons. Ce n'est en fait pas du tout cela, lui a rétorqué la maire Lisa Helps. À la suite de cet échange tendu, le conseil a dû être fermé au public et les élus se sont retirés un court instant afin de recevoir la façon dont la motion serait interprétée par les personnels des services. Shannon Perkins, gestionnaire des services administratifs et des licences de la ville, a déclaré qu'il existe des règles distinctes et que le personnel aurait toujours la capacité de les faire appliquer, comme faire fermer les tentes ou structures temporaires trop grandes ou trop hautes. Sarah Potts, qui a aidé à rédiger la motion, a noté que de nombreux services aux personnes vulnérables restent fermés en raison de la pandémie. Si les gens tombent malades, ils ont encore besoin d'un endroit pour s'isoler pendant 14 jours. Et ce risque n'est pas parti, a-t-elle déclaré. Et je ne veux pas que nous soyons dans une position où nous n'avons pas cette option. Nous savons que les gens vivent à Beacon Hill Park. Nous parlons des gens qui vivent maintenant et de leur capacité à se protéger de ce qui est à venir et que nous ignorons encore. Plusieurs amendements ont dû être adoptés, dont celui de rendre cette mesure révisable à son échéance d'un mois, le 25 juin prochain. Pendant cette période, les services de la ville de Victoria doivent désormais observer une période de 3 jours avant de démanteler un logement de fortune jugé abandonné. À Victoria toujours et en bref, une station de charge plus rapide pour les voitures électriques. Les élus de la capitale ont voté également lors de ce même conseil en faveur de la création d'une nouvelle station de charge de dernière génération pour les véhicules électriques. Cette borne sera construite par BC Hydro au 1400 Store Street. La ville de Victoria a introduit pour la première fois un réseau de recharge publique pour les véhicules électriques en 2013 dans les parkings de la ville. En janvier 2019, le conseil a approuvé $50 000 du fonds de réserve pour l'action climatique afin d'investir dans les infrastructures servant les véhicules électriques. Le réseau a été élargi en 2018 et en 2019 et la ville compte désormais 13 stations avec des plans pour une expansion supplémentaire en 2020 et l'introduction de 6 nouvelles bornes de recharge le long de Broad Street entre Pandora Avenue et View Street. Ces extensions sont faites pour soutenir l'adoption rapide des véhicules électriques qui sont observés dans la communauté avec des taux de croissance supérieurs à 50% par an sur la base des ventes locales. Selon le plan climatique de la ville de Victoria, d'ici 2030, les énergies renouvelables alimenteront 30% des véhicules de tourisme immatriculés dans la capitale et 100% des véhicules de tourisme seront alimentés de manière renouvelable d'ici 2050. Et pour conclure notre page consacrée à Victoria, sachez que les élus ont accepté de réviser le plan Downtown Core AERA, un plan qui avait été initialement approuvé en 2011 et qui fournit des orientations pour la croissance et la conception urbaine sur une période de 30 ans. Au regard des nouveaux chiffres publiés par le district régional de la capitale qui prévoit une augmentation de la population de 32% d'ici 2038 dans la région du Grand Victoria et que 50% de cette nouvelle croissance démographique sera captée intramuros en centre-ville, il était nécessaire d'entreprendre cet examen afin de faciliter la conception de nouveaux bâtiments améliorés qui vont soutenir cette nouvelle demande. Et puis sachez également que les élus de Victoria ont répondu favorablement à une initiative de la province qui invite les gouvernements locaux à faire remonter de l'information sur les souhaits et plans de circulation municipaux afin de changer la législation provinciale à court terme en matière de circulation routière. Cette étude baptisée Motor Vehicle Act Project sera le fruit d'un travail collectif entre le district régional de la capitale, la police, les municipalités et les services de sécurité routière et vise à offrir plus d'homogénéité entre les différentes réglementations routières des municipalités de la région. Cela concernera les limitations de vitesse dans et hors des villes, mais aussi la possibilité d'autoriser des engins de micro-mobilité sur la route, comme les trottinettes, les scooters électriques ou encore les fameux hoverboards. Et nous avons maintenant par téléphone M. Cliff McNeil-Smith, qui est le maire de Sydney. Monsieur le maire, bonjour.
Good afternoon.
Comment allez-vous?
I'm well, thank you, François.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous car lundi soir, les conseillers municipaux de Sydney ont appuyé à l'unanimité une recommandation du personnel autorisant les cafés et les restaurants de la ville de Sydney à étendre et à optimiser leur capacité d'accueil. Pour cela, les places de stationnement pourraient bientôt être remplacées par des patios et des allées piétonnes dans certaines zones du centre-ville de Sydney pour permettre aux gens de garder évidemment une distance physique tout en allant au restaurant, au café ou en faisant du shopping. C'est une mesure importante, d'autant plus quand on connaît l'importance durant la période estivale de la fréquentation touristique pour l'économie de la ville de Sydney.
Yeah, so the way this came forward to us is that with the province announcing the phased restart, BC restart plan, of course we're seeing more activity in our downtown area, and that's a good thing to see, and we want to encourage that. And so we know that we have to maintain the physical distancing when we're out in public, whether we're in the public area on the sidewalks or whether we're in the businesses. And what we've noticed is that there are pedestrians, because businesses prudently are limiting the number of customers they're allowing in their premises at a given time, there are sometimes lineups on the sidewalk to, say, a restaurant who's doing takeout service or a bank and so on. And so that creates a little bit of a challenge for other people to maintain their physical distancing. And so as we get busier, that will be a challenge. And so that's a public health safety concern for us to address. And the second is we want to support businesses as they are reopening during the recovery. And in particular, restaurants and cafes know that they will be very limited on what seating they will have indoors. And so whether they currently have some outdoor seating or not, they may come to the town requesting seating either on the sidewalk or in the parking spaces that are in front of their business on Beacon Avenue. And so our council has asked unanimously asked our town staff to bring forward amendments to our parking bylaw and to our sidewalk cafe licensing bylaw so that we can ease the restrictions to be able to provide both for the public safety and opportunities for restaurants and cafes.
Très bien. On peut aussi rappeler que Victoria, le conseil municipal de Victoria, a pris des mesures similaires il y a quelques semaines. Avez-vous considéré des mesures spécifiques pour l'accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite?
Yeah, so that's a very good point, and we did bring that up at council last night. So currently we do have some people with mobility issues with special parking in the downtown. We're not looking at removing all of the spaces downtown. We have at the moment what we call pinch points, and so in some areas the sidewalk is plenty wide enough, and in other areas it's narrow. And so we're going to be looking at the pinch points first. And doing that, and of course, if, for example, we allocate those parking spaces in, say, a part of one block to pedestrian movement, then we would have to build, you know, proper ramps up and down on the curb so that people with walkers or other mobility issues can use those use that area safely.
Merci beaucoup pour votre temps et toutes ces précisions. Et à très bientôt.
Okay, thanks for the interest, François. Have a good day. Bye-bye.
Et je reçois maintenant la conseillère municipale de Saniche, Karen Harper. Karen, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, je vais très bien, merci. Et vous?
Eh bien, ça va, aussi bien qu'on peut aller par temps de pandémie, assez bizarre, mais ça va. Je vous appelais aujourd'hui pour faire un petit point sur ce qui s'est passé hier soir en conseil municipal à Saniche. Vous avez notamment, les élus, autorisé le lancement d'une étude pour élaborer une stratégie à long terme sur les 10 prochaines années concernant le logement, et particulièrement le logement abordable, dit abordable, dans le périmètre de la ville de Saniche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, nous avons reçu un rapport qui est vraiment bien fait et nous avons discuté le rapport. Vous avez bien décrit le but du rapport. Le processus que nous avons suivi est vraiment, je pense, de déterminer la meilleure façon de définir le sujet. Je pense que c'est vrai de dire que le conseil veut que le sujet marche pas seulement bien, mais marche un peu plus vite qu'auparavant. Et donc, nous avons passé beaucoup de temps en discutant quel est le processus correct d'atteindre les buts du stratégie. Et nous avons décidé à la fin que nous voulons utiliser un processus un peu moins long, pas une année, mais plutôt un processus de 9 mois, et aussi que nous voulons utiliser un comité spécifique avec les buts spécifiques pendant une période spécifique. Et cette comité aurait eu une diversité avec les membres, et nous allons continuer la discussion sur le comité spécifique dans 3 semaines.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus précisément des buts spécifiques?
OK, so nous avons 5 choses en particulier, les choses les plus importantes pour obtenir les résultats. Et comme vous avez déjà dit, la première chose est d'augmenter le niveau de logement abordable en Saanich, pas seulement abordable, mais aussi suffisant et accessible, particulièrement pour les personnes qui ont moins de moyens. Il y a des revenus modestes. Et deuxième chose est de soutenir la diversité de logement et aussi augmenter le niveau de logement. C'est-à-dire que même s'il y a une crise, en particulier pour les personnes qui ont des revenus plus modestes, qui sont les personnes qui sont en logement locatif. C'est important d'avoir une range de logements de l'une à l'autre. C'est-à-dire les appartements, les logements pour les locataires, mais aussi les maisons pour les moyenne classe, mais aussi les maisons jusqu'à l'autre bout aussi. So, il y aura beaucoup de choix, une grande diversité, une grande fourniture de logements. So, donc, c'est de soutenir cela. Et troisièmement, c'est de promulguer et de protéger les logements locatifs. Et ça, c'est vraiment important, particulièrement pour Saanich, au cause du fait que nous avons beaucoup d'étudiants au cours de Camosun et UVic. Et so, donc ça. Et quatrièmement, c'est de réduire n'importe quoi qui crée des problèmes pour obtenir les logements, d'avoir des associations, des partnerships avec les groupes qui peut nous aider pour et à mesure qu'on développe cette stratégie.
Très bien. Donc, c'est avec les stakeholders, tous les participants, les associations. Oui. En fait, c'est impliquer oui. toutes les parties prenantes, toutes les gens qui sont oui. concernés oui. par cette problématique du logement, du développement du logement oui. abordable oui. pour les personnes qui ont des revenus
oui. modestes. Oui, pas seulement les développeurs, mais aussi les personnes qui ont besoin. Mais les personnes qui ont une grande connaissance des meilleures façons d'obtenir les résultats qu'on veut.
D'accord, donc on peut penser notamment au Capital Regional District, vous allez travailler en partenariat avec eux, j'imagine.
Oui, et aussi les groupes qui construisent les logements locatifs, les logements pour les personnes des revenus moins grands, aussi bien que les développeurs généralement, aussi bien que les représentatifs des groupes comme community associations dans les régions de Saanich ou les maisons seront. So, dans trois semaines, nous allons discuter, j'imagine, quelles sont les catégories des personnes qui seront les membres du comité spécifique.
Eh bien, dans ces cas-là, on en reparlera dans trois semaines. Et avant ouais. de vous laisser, un petit mot sur un autre rapport qui est passé aussi hier en conseil ouais. municipal. Saanich pourrait peut-être héberger le premier magasin provincial de vente de cannabis. Alors, il a été proposé...
Oh, okay.
Le cannabis store pourrait ouvrir à Uptown. Oui. En tout cas, vous avez donné votre validation pour que ce projet puisse passer en audition publique et que le public puisse donner son opinion sur l'opportunité d'ouvrir ou pas oui. un magasin provincial de vente de cannabis. Ce qui il serait oui. d'ailleurs le premier de toute la province de la Colombie-Britannique.
Oui, c'est vraiment intéressant parce que c'est le gouvernement qui est le suppléant. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est la première. Oui. Et nous avons dit oui en public hearing.
Est-ce que c'est une demande que vous avez formulée à la province, que vous avez demandé à la province, ou est-ce que c'est la province qui vous a contacté pour savoir s'il était possible de créer un magasin ici
C'est la province qui nous a contactés parce que c'est notre règlement. Nous avons le pouvoir ici. Mais ce n'est pas vraiment un problème. Nous avons déjà adopté des règlements, et c'est-à-dire qu'on dit où de tels magasins peuvent être. Tous les règlements sont déjà en place. So, c'est complètement consistant avec cela, mais c'est nécessaire d'avoir un public hearing. Mais j'imagine que ce sera pas... On ne sait jamais. Mais j'imagine que ça ne causera pas trop de problèmes quand on considère où le magasin sera et qui est en charge, c'est-à-dire le gouvernement. C'est pas près des écoles ou d'autres choses comme cela. So c'est bon, c'est une bonne location. On verra ce que le public pense. Juste à ce moment-ci, nous n'avons pas reçu beaucoup de feedback, et le feedback que nous avons reçu, c'est pas un problème. So, on verra.
Très bien. Et puis, une dernière petite question avant de vous quitter. Il y a trois semaines de cela, lors des derniers conseils municipaux en session plénière, vous aviez étudié un rapport visant à autoriser, à rendre possible la vente de produits locaux sur des petites étales en bord de route, dans les limites de la ville de Saanich. Et donc là, vous avez réussi, avec l'aide des services, à harmoniser votre réglementation et à rendre cela possible. C'est bien ça?
So, hier soir, nous avons reçu un rapport du département, et nous avons adopté les recommandations, et c'est-à-dire que nous n'allons pas enforcer les règlements. Et vraiment, c'est aux causes. Je pense que la raison qui a commencé tout cela est au COVID. Le fait qu'il y a des business qui ne peuvent pas être capables de continuer dans la location. Il y a des personnes qui ont trouvé nécessaire de travailler chez eux. Donc, maintenant, nous avons une solution qui est temporaire jusqu'à ce qu'on reçoive les recommandations plus permanentes.
Eh bien, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on ira acheter des produits locaux, des fruits et des légumes sur les petits oui. marchés, les petits étals en bord de route dans la ville de Saniche.
Oui. Et ce sera intéressant de dire combien de personnes le font, parce que j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais quand Victoria avait fait la même chose, il n'y avait pas beaucoup de take-up. Donc, on verra.
Alors, on va regarder ça de près. Karen mm-hmm. Harper, merci mm-hmm. beaucoup pour votre intervention et pour votre temps. On vous souhaite de passer une très bonne semaine.
Oui, et merci pour votre gentillesse avec mon français.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Regard sur le Grand Victoria. Entretien. Et je reçois maintenant Judith Sayers, qui est membre de la Première Nation Upachasat, qui a été au conseil d'administration de la Iceland Rain Corridor Foundation pendant plus de 16 ans et qui l'a présidé pendant de nombreuses années. Judith, merci d'être au téléphone avec nous. Judith, thank you so much for reaching out and to accept our invitation. How are you today?
I'm very well, thank you.
Nous avons fait la semaine dernière une émission spéciale consacrée à la réouverture, au projet de réouverture du chemin ferroviaire qui parcourt l'île de Vancouver. Nous avons reçu à cet égard plusieurs invités, dont Daniel Harbour, que vous côtoyez régulièrement au conseil d'administration. Vous-même, vous êtes membre de cette association depuis plus de 16 ans. Vous avez été une des premières à porter le projet. Vous avez également co-présidé pendant de nombreuses années cette fondation. Et nous voulions absolument vous avoir au bout du fil pour aller un petit peu plus loin aujourd'hui avec vous sur ce qui a été développé la semaine dernière. Je voulais d'abord m'interroger avec vous sur comment vous avez vu au cours de ces nombreuses années, depuis l'origine et votre engagement, ce projet évoluer vers ce qu'on est aujourd'hui en droit d'attente, c'est-à-dire effectivement un projet qui est prêt, qui est dans les cartons et qui pourrait être relancé rapidement.
Well, it's always been our dream and our vision to bring back rail to Vancouver Island, you know, from Courtenay to Victoria, Portalbernie into Parks McQuallicum. We feel that there's many uses for the rail. It connects all our communities along the island. It could reduce greenhouse gases, get some of these trucks off the road. And so we've always been determined to get rail back and being useful on the island.
Alors, il faut savoir que le rail, le chemin de fer, est assis et traverse le territoire de 14 différentes Premières Nations, c'est bien cela?
Yes, that's correct. You know, we want to bring back both rail and freight on the line. The rail, you know, many years ago used to be very useful to First Nations. There'd be stops in their communities and they jump on the rail and go to Victoria or Duncan or Nanaimo and go visit people. There's a lot of really good stories that people can tell about riding the trains. And, you know, it's a convenient way of getting around the island. Of course, the railway brings a lot of bad memories to First Nations because a lot of their land was taken for the rail. It was the ENN railway in those days. And so their land was taken. And so now as they try to settle treaties and land claims, there's very little land left because so much land was taken for the train. So it's kind of a dark history. So what we are trying to do at the ICF is to try and make it into a better history, to make it into something that First Nations can gain revenue, have jobs, move things along the line and to get a good purpose out of it because, you know, the land was taken from them. The ICF is now owns the land. And so we really want to work with First Nations along the rail to make a good news story and not just, you know, looking at the dark past.
Et au moment où nous nous parlons, est-ce que les 14 différentes Premières Nations qui sont concernées par ce projet de réouverture sont-elles toutes unanimes, ont-elles toute une position commune et convergente vers la réouverture du rail? J'ai entendu récemment des sons dissidents, certaines communautés des Premières Nations seraient plus enclins désormais à réaffecter le chemin de fer pour d'autres usages ou pour simplement récupérer les terres qui leur appartiennent.
So So the rail passes through 14 First Nations territories. Not all 14 agree on the railway. We have some that do not like it. The Sinalis has actually brought us to court and wants the land returned to them. And we're waiting for a judgment from the justice on that. People like Halalt are working with us to build a trail through our lands for them to use. You know, some of these tracks go right through the middle of the communities, like Sinalis, Sinemo, Halalt, Songhees, Esquimalt. They're not so happy with it, and you can't really blame them, but that's where they put the railway, and, you know, when the rail trains go by, you know, they'll shake their houses, and yeah, so not everybody agrees, but, you know, we are trying to work with each of them to alleviate some of the issues and the problems that would be created by the trains, because the trains haven't run now in about 6 years, I think it is, and so, yeah, so we're just trying to change and work with them, trying to cut down on noise or traffic or whatever.
Alors, nous en parlions la semaine dernière avec notre invité Daniel Harbour, mais peut-être voudriez-vous rappeler et réénumérer les nombreux avantages que vous percevez à la réouverture du chemin de fer. On parle ici d'avantages économiques, d'avantages écologiques et aussi d'avantages, par exemple, pour l'industrie touristique. Ça pourrait être un magnifique outil pour notre île, pour la promotion de notre île, que de pouvoir voyager à nouveau à bord de ce train mythique.
That's right. Yeah, it's such an amazing asset that we have, you know, land that goes from Victoria all the way to Courtenay and then from Parksville into Port Alberni, that we can do tourism trains, we can do freight trains. You know, it's better for the environment than all the cars. We could take a lot of cars off the road. People love trains. You know, we don't use a lot of them in Canada, but, you know, in Europe, they're used all the time. You know, and eventually we'd love to see a lot more, you know, more modern trains used on the tracks as well. So lots of things, but it, you know, just takes one step at a time and getting the trains back and running people up and down the island and doing some freight. You know, it is a start, and as we build our business, we can do a lot more things.
Madame Seyers, j'avais une dernière question pour vous. Il y a beaucoup de détracteurs à ce projet qui annoncent qu'il vaudrait mieux, pour des raisons économiques principalement, revisiter le propos et l'intérêt de ce rail, le transformer intégralement en une piste cyclable ou un sentier du moins de randonnée qui pourrait être emprunté à la fois par les cyclistes et les piétons. Et je sais que vous répondez souvent à ces détracteurs en disant qu'il est tout à fait possible de faire les deux, d'embarquer notre vélo pour une journée de voyage, par exemple à Duncan ou à Nanaimo, et puis descendre à l'arrêt qui nous intéresse le plus, et puis profiter de la journée pour bien soit s'aérer, se promener, faire une balade, et puis reprendre le soir ou l'après-midi le train pour rentrer soit vers Victoria, soit vers Comox, selon là où on habite. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible de faire et envisageable?
Definitely, yeah. You know, and the new trains we're going to be getting when we start, people will be able to bring their bikes on the train. But we're also working with communities, and we've built over 100 kilometers of trail along the track, so rails and trails. They go together well. We just work with our engineers to make sure there's, you know, that they're safe, and we'll continue to work with that. I mean, there's, you know, some of, we have some really large pieces of land along the track, some not so large. But, you know, we can do this, and we can do both things. And that's what we keep telling people. We don't have to give up the trains to have a trail. So that's, you know, that's important. And being able to enjoy this, you know, the track goes through some pretty beautiful places. And people can take advantage of that by walking alongside the trail, on the train.
Madame Seyers, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et si nous voulons suivre d'un peu plus près l'actualité de ce sujet, où est-ce que nous pouvons nous rendre?
Yes, islandrail.ca. Yeah, lots of information on there.
Très bien, merci encore et à très bientôt, j'espère.
Yeah, thank you.
Et nous arrivons à la fin de votre tour d'horizon de l'actualité municipale du Grand Victoria. C'était François Macon au micro pour vous accompagner. Merci encore, chers auditeurs du 107.9 FM, pour votre fidélité. Je vous retrouve évidemment avec très grand plaisir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, respectez bien les gestes barrières et la distance physique. Et je vous dis à très bientôt.